Alors, Hébreux 6. Gloire à Dieu. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, prête d'être maudite, et on finit par lui mettre le feu. Amen. Mais lorsqu'une terre est abreuvée, alléluia, Seigneur, abreuve la terre de nos cœurs, abreuve la terre que nous sommes, alléluia, par la pluie du Saint-Esprit qui tombe souvent sur nous. Tombe sur nous, Seigneur, Saint-Esprit, viens, abreuve-nous, alléluia, que cette pluie tombe souvent sur nous, afin que nous produisions une herbe utile à ceux pour qui cette herbe est cultivée, eh bien nous participons ainsi à la bénédiction de Dieu. Seigneur, merci parce que nous sommes un peuple béni, parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Il est en nous, il est avec nous, il est à nos côtés. Alléluia. Et nous remercions Dieu de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Seigneur, il y a une bénédiction partout où le Saint-Esprit est, parce que tu as dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et quand la parole a été déclarée, le Saint-Esprit a agi. Il est la bénédiction. Il est celui qui fait fleurir les fleurs et les plantes. Il est celui qui donne la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit donne la vie. Il est à nos côtés. Il est là présent. Il est avec nous. Il est toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. C'est pourquoi, Seigneur, merci que cette parole s'accomplisse au milieu de nous ce soir et dans les jours qui viennent, Seigneur. Que cette terre que nous sommes en tant qu'Église soit abreuvée par une pluie qui tombe souvent sur nous, Père. Envoie la pluie, alléluia, et que cette pluie tombe souvent sur nous afin que nous produisions une herbe qui soit utile, alléluia, pour ceux pour qui elle est cultivée, afin que nous participions à la bénédiction de Dieu. Cela veut dire, frères et sœurs, que sans cette pluie, eh bien, la terre ne produira rien, alléluia, et nous, eh bien, nous ne pouvons pas participer à la bénédiction de Dieu. Vous vous rendez compte? Mais si la pluie tombe souvent sur nous, alors nous produirons une herbe. Ça veut dire, frères et sœurs, plus que jamais, nous avons besoin de vivre en communion importante, utile, proche du Saint-Esprit. Proche du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia, parce que lui connaît les voies, lui connaît les chemins qui produisent, lui connaît les directions, lui sait ce qui porte du fruit. Alléluia. Lui sait ce qui va être bon, ce qui va être rentable, ce qui va être productif dans nos vies. Lui sait quel est le chemin de la bénédiction. Mais il faut que cette pluie tombe souvent sur nous. Amen. Oh Seigneur, merci, car si une terre, alléluia, est abreuvée par la pluie, elle va produire. Alléluia. Elle va produire. Frères et sœurs, réalisons. Alléluia, ne soyons pas secs. Et si nous sommes secs, nous allons boire ce soir à la source du Seigneur, à l'eau fraîche du Seigneur, car Dieu veut nous rafraîchir de son eau fraîche. Alléluia. Oh, je vois des visages qui pensent à autre chose. Soyons ensemble, parce que Dieu veut nous abreuver d'eau fraîche. Alléluia. Dieu veut nous abreuver d'eau fraîche. Est-ce que vous le croyez? Dieu veut nous abreuver d'eau fraîche. Alléluia. Et que cette eau fraîche tombe souvent sur nous. Alléluia. Pour produire une herbe. Alléluia. Une herbe qui va être vraiment agréable et utile pour ceux pour qui elle est cultivée. Avant de parler de mon sujet, j'aimerais qu'on prenne un passage prophétique. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 4. J'aimerais vous rappeler les temps dans lesquels nous sommes. Très important. Il ne faut plus rigoler avec le Seigneur, il faut être sérieux. On peut rigoler dans l'esprit avec le Saint-Esprit, mais on ne peut pas plaisanter avec Dieu. On ne peut pas traiter les choses de Dieu à la légère. Nous sommes dans un temps tellement important. Alléluia, regardez le chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. On va le lire en entier. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. » Pourquoi je vous lis ça? Parce que, alléluia, les temps sont proches et que cet événement, à un moment donné, va prendre place. et que cet événement est proche de nous, et que déjà il y a 2000 ans, le Seigneur disait par son serviteur, consolez-vous par ces paroles, ça veut dire ayez vraiment de l'espérance qu'un jour vous allez vous tenir devant le Seigneur, mais que vous allez entrer dans ce système de transportation qui est la gloire. Amen. Il y a un système de transportation que Dieu va utiliser pour transporter le corps de Christ de la terre au ciel, et c'est quoi ? La gloire. Nous allons être enlevés dans la gloire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la présence de Dieu ? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. La présence de Dieu va nous enlever, va nous transporter d'un monde dans lequel nous sommes à un monde différent. Alléluia. Dans lequel nous sommes par la foi, mais que nous ne connaissons pas, mais nous allons y aller par le Saint-Esprit, qui est le moyen que Dieu a utilisé pour transporter de la terre au ciel des milliers et des milliers de personnes. Pour ne pas dire des milliards de personnes. Alors, je vous dis ça pourquoi ? Dieu est puissant, le Saint-Esprit est puissant, les voies de Dieu sont extraordinaires, ce ne sont pas les nôtres. Nous avons plus qu'intérêt, frères et sœurs, à nous tenir proches de Dieu, à ne pas négliger la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la prière, dans ces temps dans lesquels nous sommes, car des événements vont prendre place ou doivent prendre place. Et c'est pourquoi nous devons être attentifs au temps dans lequel nous sommes. Frères et sœurs, si nous regardons dans 1 Thessaloniciens 5, après avoir lu cela, hein, nous regardons 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 qui suit. Vous savez que la Bible n'a pas été écrite en versets et en chapitres, mais c'était pour notre facilité. Mais en fin de compte, tout de suite, ce qui suit, c'est « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Donc je m'arrête là et je m'interroge sur ce que veut dire ce verset. Parce que il nous dit pour ce qui est des temps et des moments, ou pour ce qui est des temps et des saisons, on pourrait dire. Vous voyez ? Car dans la vie, il y a des temps et des saisons. Il y a des temps différents et il y a des moments différents. Le mot « moment » peut être traduit par « saison ». Ça veut dire des étapes différentes. Et avec le Seigneur, c'est ainsi que cela se passe. Il y a des temps et des saisons différentes. Et quand vous comprenez que vous suivez le mouvement de l'Esprit dans le temps de l'histoire, vous voyez qu'il y a eu des temps et des moments différents. Des temps et des moments différents. Voilà, il y a eu des temps et des moments différents. Et donc ces temps et ces moments différents, eh bien, ils sont là, ils existent, mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour les reconnaître. Vous voyez ? Et là, nous sommes dans un temps et un moment différent, parce que Dieu agit ainsi. Il prépare les choses, mais surtout, il nous fait ressentir les temps et les moments différents, de façon à ce que nous soyons attentifs et que nous sachions ce qui se prépare. Dieu ne veut pas que nous ne sachions pas ce qui se prépare. Il veut que nous comprenions les temps et les moments dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans cette tranche de temps juste avant le retour du Seigneur et nous sommes dans une attente. Et nous avons dans notre esprit, je ne sais pas vous, mais nous avons une expectative, une attente glorieuse dans notre esprit parce que des événements doivent prendre place. Avant l'enlèvement, ce grand enlèvement, des événements glorieux doivent prendre place pour le corps de Christ dans cette région, dans ce pays, dans le monde entier. Et c'est vrai que dans le monde entier, beaucoup de choses ont déjà pris place, mais nous attendons avec joie, avec foi, hein, des événements qui doivent prendre place. Et comment est-ce que ces événements prennent place ? Ça commence avec un désir dans notre cœur de reconnaître par l'Esprit de Dieu ce qui se passe, ce que nous enfantons dans la prière, ce que nous préparons dans la prière. C'est pourquoi il nous faut être connectés au Saint-Esprit, connectés à l'Esprit de Dieu, sinon nous ne reconnaîtrons pas les temps et les moments. Nous n'aurons même pas d'espérance dans ce que nous travaillons, dans ce que nous faisons. Parce que la Bible nous dit de travailler avec espérance, d'avoir part à la bénédiction. Et nous travaillons avec espérance, parce que nous avons dans notre esprit cette expectative. Nous savons que quelque chose d'extraordinaire doit prendre place dans cette région, alléluia, dans cette ville de Vichy et partout dans ce pays, alléluia. Et mais vous voyez, l'Esprit de Dieu travaille notre esprit, alléluia. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même. Amen. Comment est-ce que ces gens, ces Thessaloniciens savaient ? Ils connaissaient l'Esprit, ils avaient été enseignés sur le fait de connaître les choses par l'Esprit. Amen. Vous savez, ils étaient différents des Corinthiens. Les Corinthiens étaient des gens charnels. La parole de Dieu leur était adressée d'une façon à les reprendre. Et ils ne comprenaient pas par où passait l'apôtre Paul. Ils voyaient les choses d'une façon superficielle parce qu'ils étaient restés charnels. Il y avait de la bataille entre eux. Ils se querellaient les uns les autres, ne marchaient pas dans l'amour, tout ça. Vous connaissez les Corinthiens. Mais les Thessaloniciens étaient différents. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul leur a donné cette puissante révélation et leur dit, vous savez reconnaître par l'esprit les temps et les saisons. Amen. Les temps dans lesquels vous êtes et les temps et les saisons. Ça veut dire il y a des temps de préparation et il y a des saisons dans lesquelles nous entrons. Amen. Et nous sommes dans une nouvelle étape depuis déjà, je crois, 2001. On sent que les choses ont changé, le monde a changé, les choses sont en train de se mettre en place. Dieu fait quelque chose dans le cœur de son Église partout. Alléluia, il y a des temps de préparation, mais des temps qui sont proches aussi d'entrer dans cette moisson. Et vous savez, la moisson est prête, Jésus l'a dit il y a 2000 ans, mais le problème c'est plutôt les ouvriers. C'est les ouvriers qui doivent être prêts, amen. C'est pas tellement la moisson car elle est prête. Jésus a dit, regardez déjà les champs qui blanchissent pour la moisson. Ils sont prêts, alléluia. Mais est-ce que les ouvriers sont prêts? Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'Église a besoin d'être très proche du Saint-Esprit, de savoir dans l'Esprit ce qui se passe. Et je sens dans l'Esprit qu'avec ce que nous avons mis en place, il y a quelque chose de l'Esprit où nous allons recevoir et recevoir une direction. Regardez, tout en gardant ce passage dans Luc 11, on va voir quelque chose que les apôtres, les disciples, ont demandé à Jésus. On va se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont demandé cela à Jésus? Dans Luc 11, au verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Amen. Et donc les disciples savaient que quand Jésus priait, il recevait de Dieu. Amen. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à parler en langue. Seigneur, enseigne-nous à prêcher. Seigneur, enseigne-nous à guérir les malades. Seigneur, enseigne-nous à imposer les mains. » Non, qu'est-ce qu'il leur demande? « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. « Enseigne-nous à prier. » Et lorsque vous regardez, à la fin, au verset 14, vous voyez que Jésus a prié, il a enseigné ses disciples et ensuite, Jésus chasse un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Amen. Et vous voyez Jésus faire miracle, miracle après miracle. Mes frères et sœurs, les disciples observaient Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? À l'époque, Jésus ne parlait pas en langue. Vous savez bien, Jésus parlait au Père. Il priait, il parlait à son Père et frères et sœurs, il ne faisait pas que parler. Il recevait de son Père. Et c'est cela la clé. Il recevait quelque chose que les disciples entendaient. Et il se disait, donc il reçoit de son Père, et en fin de compte, quand il part, eh bien, il sait ce qu'il doit faire, parce que son Père lui a dit, va vers cette dame là, tu vois, avec l'habit rouge là, va lui donner une parole, va à tel endroit, fais ci, fais ça. Il recevait de son Père. Alléluia. Et les disciples voyaient. C'est pourquoi les disciples lui ont dit, écoute, enseigne-nous à prier. Bien sûr, ils ont dit comme Jean, parce que les disciples ne connaissaient pas autre chose que la façon de faire de Jean le Baptiste. Hein, c'était Jean le Baptiste. Mais Jésus, donc, leur a donné un enseignement. Mais en fin de compte, ce que les disciples ont vu, c'est que Jésus, quand il priait, il recevait de Dieu. Et il recevait quelque chose de nouveau et de frais. Amen. Il recevait dans son esprit et dans son cœur. Et ensuite, il pouvait aller dans le monde, il pouvait aller auprès des gens parce qu'il savait qu'il y avait une mission à accomplir. Il savait ce qu'il devait faire. Jésus n'était pas dans la confusion, il dépendait de son Père. Comment est-ce qu'il dépendait? C'est par la prière. Mais c'est une prière particulière, frères et sœurs. Il recevait dans la prière. Et c'est ce dont nous avons le plus besoin par le Saint-Esprit, de recevoir. Tandis qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici, en ce qui concerne la prière, alléluia, je crois que peut-être on va grandir dans ces choses, mais on va apprendre à recevoir plus du Saint-Esprit, amen, dans notre esprit. On va apprendre à recevoir plus de surnaturel, plus de direction de Dieu, plus de choses pour agir avec plus de puissance dans le monde qui nous entoure. Car quand Jésus priait, quand il se relevait de la prière, il allait dans l'action. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce que nous faisons peu nous-mêmes, parce que nous sommes souvent à retourner dans nos propres affaires, et on peut dire que la prière ne nous sert de rien. Mais frères et sœurs, quand Jésus a dit « Regardez les champs qui moissonnent » et « Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson », nous prions, frères et sœurs, que les ouvriers soient prêts. afin d'aller dans la moisson. Car la moisson, c'est là où nous vivons, où c'est les gens que nous côtoyons, de façon à ce qu'ils soient au contact avec l'Évangile. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus priait, ensuite il était conduit par Dieu pour agir. Il agissait. C'est pourquoi il chassait les démons. C'est pourquoi il guérissait les malades. C'est pourquoi il savait ce qu'il devait faire, car il avait des directions dans son esprit. Je vais vous dire, frères et sœurs, plus que jamais, nous avons besoin d'être connectés au Saint-Esprit qui nous donne la direction en toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit. Alléluia. Lorsque nous sommes proches du Saint-Esprit, il y a une atmosphère dans notre vie et dans notre cœur qui change. Alléluia. Dieu nous donne des directions si on en a besoin. Et il y a une atmosphère qui nous encourage, qui nous édifie. Parce que partout où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Et partout où il y a le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit. Alléluia, qui est glorieux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que je vous dis? Avant des événements importants, lorsqu'il y a des temps et des saisons, comme nous avons lu tout à l'heure, Dieu travaille dans le cœur de ses enfants. Amen. Dieu travaille et veut travailler dans nos cœurs. Mais il est obligé de briser nos emplois du temps et notre façon de voir la vie intellectuelle que nous l'avons. Nos façons de régler notre vie dans le naturel. Il est obligé de casser certaines choses de façon à ce qu'il puisse pénétrer dans mon cœur, dans nos cœurs et nous dire voilà ce que je veux. Amen. Voilà ce que je veux. Allez-y, c'est ce que je veux. Et tandis que vous faites ce que je veux, pensez que le Saint-Esprit est là pour vous révéler des choses que vous ne connaissez pas. Alléluia. Car il y a des temps et des saisons. Et tout se fait dans ces temps et par des temps et des saisons. Amen. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, vous voyez tous ces temps et ces saisons. Des temps difficiles, mais des temps glorieux en même temps. Alléluia. Et Dieu veut qu'une grande moisson soit rentrée. Donc il y a des temps de gloire qui arrivent. Alléluia. Mais ils n'arrivent pas comme ça sur un peuple qui n'entend rien, qui n'écoute rien, qui n'est pas connecté au Saint-Esprit et qui n'a pas les désirs de Dieu, les désirs du moment, les désirs que Dieu a aujourd'hui pour cette génération. Amen. Il nous faut entrer dans ce que Dieu a aujourd'hui. On ne peut pas entrer autrement que dans la prière pour commencer. Alléluia. Et produire aussi du fruit à l'extérieur. Mais c'est la prière qui va nous conduire, frères et sœurs. Et frères et sœurs, une prière où l'on écoute le Saint-Esprit en nous. Amen. Et il y a des moments où on prie, c'est vrai, on intercède pour les uns pour les autres. Et il y a des moments où on intercède, on écoute en même temps notre esprit. Il faut être attentif à la voix de notre esprit. Alléluia. Les disciples voyaient que Jésus, quand il avait achevé sa prière, faisait des miracles et agissait comme s'il savait ce qu'il devait faire. Et ils enviaient cela. Amen. Parce que Jésus avait une connexion intime avec son Père. Frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit. Nous lirons tout à l'heure ce que c'est. Mais il y a des temps et des moments. Et j'ai noté des temps et des moments, notamment, rappelez-vous, Néhémie, par exemple. Quand il a su ce qui se passait à Jérusalem, que toute la muraille était tombée, qu'il n'y avait pas de protection, il a commencé par prier. Il ne savait pas encore ce que Dieu allait faire. Il ne savait pas encore quelle était la pensée de Dieu. Mais il a su que cet événement était important. Amen. Et nous avons des connaissances dans la parole de Dieu. Nous savons les temps dans lesquels nous sommes. Et frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait Néhémie? Il n'a pas reçu avant d'avoir posé ses jambes ou son genou par terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier et à exposer la situation devant Dieu. Et à partir de là, il s'est mis dans le jeûne, il a jeûné, il a prié pendant plusieurs jours, il a reçu de Dieu. Amen. Il y a les temps et les moments où on reçoit de Dieu. Rappelez-vous de Daniel. Daniel également, lorsqu'il étudiait, alors qu'il était en captivité, il était insatisfait, il étudiait le livre de Jérémie. Il a vu que pour la captivité à Babylone, il y avait 70 ans de captivité. Il a compté, il a dit, mais ça y est. Ça fait 70 ans qu'on est là. Et il a commencé à prier Dieu. Il a commencé à chercher Dieu. Non, ça faisait pas encore 70 ans. Mais il a vu qu'il y avait 70 ans. Et ça l'a poussé dans la prière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les temps dans lesquels nous sommes doivent nous pousser dans la prière. Amen. De façon à chercher Dieu et à aller plus profondément, de façon à connaître ses plans et ce qu'il va faire, comment il va faire et nous, comment nous accrocher à ses plans, notamment nous associer à ses plans. Et ça se passe dans la prière, frères et sœurs. Alléluia. Ça ne se passe que dans la prière parce que sinon on ne reçoit pas les choses dans le naturel. Alléluia. Regardez par exemple dans Acte 3. Acte 3. Vous avez l'apôtre Pierre qui parle, verset 19. Et il dit une chose, il parle aux gens il y a eu la guérison d'un boiteux, et la foule est étonnée, tout ça, il explique tout ça, et il leur dit au verset 19, « Repentez-vous », alors les gens demandent ce qu'ils doivent faire. Et il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. » Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit aux gens, voilà, Jésus a guéri cet homme, n'est-ce pas? C'était un paralytique. Il a cru dans la parole de Dieu, il a été guéri grâce au nom de Jésus. Hein, et vous, vous, hommes israélites qui êtes là devant moi, que devez-vous faire? Eh bien, qu'est-ce que vous... Il leur prêche Jésus-Christ, n'est-ce pas? Regardez le verset 15. Il leur dit, vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous croyez, celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. L'ignorance fait faire bien des erreurs, hein, ainsi que vos chaînes. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait d'avance, annoncé par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Donc, repentez-vous donc. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est très important, la repentance. Et que là, tout le monde est passé par là ici. Mais la repentance, avant se convertir, c'est un état dans lequel on entre qui est très important. Parce que la foi solide et réelle ne peut pas se bâtir s'il n'y a pas eu repentance. Prise de conscience de ce que nous sommes, prise de conscience de notre péché, de notre nature. C'est pourquoi il dit « Repentez-vous et convertissez-vous. Convertissez-vous à Jésus pour que vos péchés soient effacés. » Et frères et sœurs, on voit bien que Jésus est venu pour porter les péchés et que le Seigneur, bien sûr, désire que son Église marche dans la sainteté. Amen. Elle marche dans la droiture, loin du péché. Amen. Parce que Dieu dit, n'est-ce pas, qu'il y a des temps de rafraîchissement qui vont venir pour l'Église, juste avant le retour du Seigneur. Amen. Ce sont des temps de rafraîchissement qui vont venir de la part du Seigneur. Alléluia. Et avant qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Il est déjà venu, mais il doit revenir. Et il dit, il va y avoir des temps de rafraîchissement avant que vous receviez une deuxième fois Jésus-Christ qui va revenir. Est-ce que vous voyez ce verset-là? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin, alors il parlait à la foule qui n'était pas convertie, bien sûr. Afin, ça veut dire c'est la condition pour que le Seigneur revienne. N'est-ce pas? Donc c'est notre mission à nous que les gens se convertissent. Parce que nous attendons ces temps de rafraîchissement. C'est notre mission de faire notre travail. Amen. Parce que Dieu, l'apôtre Paul dit de la part de Dieu, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Plus les gens vont se convertir, plus des temps de rafraîchissement vont venir de la part du Seigneur. Et ensuite, cela va activer le fait qu'il va envoyer celui qui nous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il dit, regardez au verset 21, que le ciel a reçu, on pourrait dire, doit recevoir, et il est à ce moment-là au ciel, comme il est aujourd'hui au ciel encore, Jésus est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, Jésus va redescendre. Ça va être le temps du rétablissement de toutes choses. Il est dans le ciel, mais pas pour tout le temps. Il attend un certain moment. Les choses vont s'activer. Amen. Alléluia. Mais vous voyez, la condition, c'est que les gens sortent du péché et viennent à Jésus-Christ pour que des temps de rafraîchissement viennent. Alléluia. De la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui nous est destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus nous est destiné. Nous sommes destinés à Jésus. Alléluia. Et Dieu va l'envoyer parce qu'il va rétablir toutes choses sur la terre. Alléluia. Jusqu'au rétablissement de toutes choses, ces choses dont Dieu a parlé anciennement, par la bouche des saints prophètes. Frères et sœurs, je vous parle de reconnaître les temps, de reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Si vous n'êtes pas connectés à la prière, si vous n'êtes pas des amoureux de la prière, et si on ne devient pas des amoureux de la prière et de la présence de Dieu, on ne peut pas être connecté au temps et aux saisons que Dieu fait parce qu'on ne les reconnaît pas dans l'esprit et on ne les voit pas dans l'esprit. Mais vous savez que les saisons et les temps que Dieu a préparés, quand on les reconnaît dans l'esprit, ça nous donne une espérance et une joie extraordinaire. Parce que les temps que Dieu fait sont des temps qui sont glorieux, où il va se passer des événements glorieux. et nous voulons avoir part à cela. Alléluia. Nous voulons pas passer à côté. Et c'est pourquoi nous allons les chercher dans les profondeurs des choses de l'Esprit. Nous devons les chercher en nous approchant du Saint-Esprit, en nous attachant à la parole et au Saint-Esprit, parce que Dieu veut nous les révéler. Car l'Esprit sonde tout, alléluia, même les profondeurs de Dieu. Donc si nous avons l'Esprit de Dieu, il y a des profondeurs dans lesquelles nous allons entrer par l'Esprit de Dieu. Simplement Dieu va nous y conduire, tandis que nous avons une soif. Parce que vous savez, le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si Dieu voit un peuple qui n'a pas soif, vous savez, qui va aux réunions machinalement, mais qui n'a aucune soif, comment est-ce que vous voulez que Dieu va déverser quelque chose dans son cœur? Dieu veut qu'il y ait des soifs dans notre cœur, des faims, des soifs de lui, pas d'autre chose que de lui. Alléluia! La soif du Saint-Esprit, la soif de sa présence, la soif de le voir se manifester. Alléluia! Et c'est pourquoi, frères et sœurs, regardons, quel passage? Jean 16. Alléluia! Jean 16. Alléluia! Oh, gloire à Dieu, il y a des temps et des moments, il y a des temps particuliers, gloire à Dieu. Alléluia. David en a connu, alléluia, vous voyez, David l'a connu, il a été averti de certaines choses. Vous savez, quand David a reçu cette onction-là de la part de Samuel, il était un petit jeune homme qui gardait les moutons, hein, les beaux moutons, les moutons blancs, pleins de belles laines, hein. Il gardait ses moutons, il en prenait tellement soin de ses moutons, mais il a reçu une onction-là. Samuel est venu, il a vu les sept fils, voilà, oui, il a vu les sept fils. Et donc, il les a regardés, c'était des beaux hommes. Mais le Seigneur lui a dit, c'est pas cela, David est né à Bethléem. Donc, il a vu ça, et il a dit, non, c'est pas ces sept hommes-là. Est-ce que tu en as un autre? Il dit, oui, j'en ai un petit huitième là, il est sans intérêt. Il garde les brebis, il fait un travail tout simple, hein, parce que c'est le petit. Moi, je m'intéresse à tous ces grands hommes qui sont là, qui vont partir à la guerre avec Saül et tout, des grands soldats. Eh bien, amène-le-moi, ce petit. Et ils amènent le petit David. Et David, là, eh bien, au milieu de ses frères, il est oint. Il reçoit une onction. Frères et sœurs, si vous étudiez la vie de David, vous allez voir que grâce à cette onction et par cette onction, il a pu garder son troupeau. Par cette onction, il a pu combattre pour son troupeau. Par cette onction, il a pu vaincre le géant Goliath. Par cette onction qu'il avait reçu en tant qu'enfant. Il a pu tenir dans les moments les plus difficiles. Il a pu marcher dans l'amour avec Saül. Il a pu fuir et être toujours victorieux par cette onction qu'il avait sur lui. Ça nous parle pour nous aussi. Ça nous parle. Il a su les temps dans lesquels il était. Il a su qu'il avait reçu quelque chose de glorieux. Il a été courageux dans les choses de Dieu. Quand l'ennemi venait pour lui voler son troupeau, car il aimait ses brebis, il aimait ses moutons, eh bien, il se levait tel un seul homme et il combattait l'ennemi. Amen. Alléluia. Voilà l'onction. Quand il y a l'onction, il y a un combat. Et il y a de grandes victoires. Quand on est conscient de l'onction, il y a un combat contre les choses du diable. Alléluia. Et il y a une victoire pour protéger ce que Dieu nous a donné. Amen. Que ce soit des biens, que ce soit des personnes, il y a une onction, elle est puissante pour garder, pour protéger et pour agir dans cette onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est important. Donc je vous disais ça parce que David a reconnu les temps et les moments. Il a su que dans sa vie, il allait être appelé à quelque chose de grand. Mes frères et sœurs, il a fait avec ce qu'il avait. Et ce qu'il avait était suffisant pour lui donner la victoire et la victoire pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit une deuxième fois oint en tant que roi d'Israël, alléluia, et de Juda, et qu'il ait encore une deuxième onction différente. Mes frères et sœurs, l'onction que nous avons reçue dans nos vies est suffisante pour nous donner toutes les victoires. Le problème, c'est est-ce qu'on est comme David? Est-ce qu'on est proche du Seigneur de façon à reconnaître l'ennemi, à reconnaître ce que Dieu veut? Dieu veut que tu gardes, Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu protèges. Alors vas-y, mon frère, ma sœur, si tu sais ce que Dieu t'a donné, alors tu as ce qu'il te faut pour combattre, tu as la gloire de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Comme David, tu as reçu l'onction, donc tu peux le faire. Amen. Tu peux être victorieux dans tes circonstances. Il a l'onction dans ta vie. Alors regardez ce que Jean va dire. Jean 16, alléluia, verset 7. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux, vous avez avantage à ce que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, amen, le Consolateur, gloire à Dieu, ce mot est très important, le Consolateur, le Paraclétos, l'aide semblable à Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Consolateur, c'est un mot qui pourrait faire croire qu'on a besoin d'être consolé. Non! Hein? On n'a pas besoin d'être consolé, on a besoin d'avoir Jésus à leur côté. Et voyez, Jésus, lui, il voit leur cœur et leur soif. Ils sont ignorants, totalement ignorants. Mais ça fait rien. Ils ont soif de savoir ce que Jésus a. Ils ont soif d'avoir ce que Jésus a. Et bien qu'ils soient ignorants, Jésus les prend au sérieux et les garde. Il les protège comme David faisait pour ses moutons, pour ses petits animaux-là. Il les protégeait. Et bien, le Seigneur les a protégés, il les a gardés. Alléluia. Il en a pris soin. Et bien qu'ils soient ignorants, il en a pris soin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une soif dans leur cœur. À qui irions-nous donc ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y avait cette soif. Jésus en prenait soin, il leur dit, je vais vous envoyer quelqu'un comme moi. Ça va être comme si j'étais à vos côtés. Vous allez être triste, oui, parce que je vais vous quitter. Mais bientôt votre tristesse va se changer en joie, quand vous allez recevoir l'esprit de joie, l'esprit de vie, l'esprit de triomphe, l'esprit de résurrection qui est le Saint-Esprit. Alléluia ! Ouh, gloire à Dieu ! Voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, maintenant je m'en vais. Verset 7, « Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. » Et un peu plus loin, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jésus savait qu'ils étaient ignorants, vous voyez ? Il savait qu'ils étaient de bonne volonté, mais ignorants. Alléluia. Mais verset 13, il leur dit, « Quand le Consolateur, le Paraclétos, celui qui a été appelé à vos côtés, cette aide semblable à Dieu, amen, quand le Paraclétos sera venu, l'Esprit de la parole, l'Esprit de vérité, car la parole et l'Esprit sont, amen, oui, amen, amen, alléluia, l'Esprit de vérité, il vous conduira. » Merci Seigneur, un des bienfaits de l'Esprit de vérité qui sera toujours avec nous, qui est là, qui est envoyé de la part de Jésus. Il est envoyé non pas au monde, mais à l'Église. Au monde, on prêche l'Évangile, mais à l'Église, on prêche le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Il ne connaît pas, il ne le connaît pas, il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Il faut être né de nouveau pour recevoir le Saint-Esprit. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'amour de la parole. Le Saint-Esprit nous conduit dans la communion au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Et là, on voit la Trinité dans ce passage. Il y a des gens qui disent, je comprends pas, la Trinité, c'est pas vrai, les témoins de Jéhovah disent non à la Trinité, tout ça. Elle est là partout dans la Bible, la Trinité. Alors, Jésus parle du Saint-Esprit, il parle du Père et il est Jésus. Vous en avez trois là. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez l'amour de Jésus, mais également sa foi, sa confiance dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, ils savaient, ils leur donnent en fin de compte juste ce qu'ils ont besoin. Et encore, quand j'ai lu quelque chose un peu plus loin, j'ai dit, oui, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Ça fait partie du Saint-Esprit, cette connaissance prophétique que Dieu veut nous donner, frères et sœurs. On est étonné, quelquefois, on entend un prophète qui parle et on dit, c'est la parole du prophète. Et nous, on se sent comme si on n'avait pas de révélation. Mes frères et sœurs, c'est parce qu'on ne va pas dans les profondeurs de Dieu, qu'on ne descend pas dans les profondeurs de l'Esprit et qu'on est seulement superficiel. Mais si on commence à aller plus profond, à écouter notre esprit et à avoir cette communion avec Dieu qui est toute simple, mais qui vient par la prière, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Dieu nous les révèle également. Les temps et les saisons nous sont communiqués. Les temps et les saisons nous sont donnés de la même façon que des prophètes qui peuvent connaître des grandes choses. Amen. Alléluia. Mais nous, si vous voulez, on a besoin d'aller dans ces choses. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Alléluia. Et il va dire un petit peu plus loin, je vous ai parlé en parabole. Je cherchais ce passage là, mais naturellement, je ne l'ai pas noté. Mais vous voyez, Jésus a parlé, il dit, je ne vous parlerai plus en parabole. Parce que quand le temps sera venu, par le Saint-Esprit, je vous parlerai directement. Vous voyez, il fallait qu'ils aient le Saint-Esprit pour comprendre les paroles de Jésus. Et lorsque Jésus parlait en parabole, c'est qu'il parlait aux gens, les gens qui les entouraient. Vous savez, Jésus parlait en parabole aux gens, à la foule. Ça veut dire quoi ? Il parlait un langage qu'ils pouvaient comprendre et qui les faisait réfléchir. Les paraboles, c'était des histoires que les gens comprenaient. Et il y avait une leçon profonde et spirituelle dedans qu'ils ne pouvaient pas toujours comprendre. Alors le Seigneur expliquait à ses disciples. Mais la parabole, c'était le fait que Jésus parlait le langage des gens. Je me suis longtemps interrogée sur ces histoires de paraboles, des histoires, mais moi j'aurais rien compris à ces histoires, je me disais. Jusqu'au moment où j'ai lu théologien qui expliquait que les paraboles, c'était des histoires que les gens comprenaient et qui illustraient des points que le Seigneur voulait leur donner. Amen. Donc le Seigneur employait un langage qui convenait aux gens. Et nous, est-ce que quand on parle aux gens, on emploie un langage qui leur convient lorsqu'on évangélise? Des fois, on emploie un autre langage. Le langage de l'Église, qui est une langue à elle seule. Alléluia, alléluia, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Les gens ne comprennent pas ça. Il faut qu'on ait le langage. Amen. Hein? Quand on parle, je parle à des inconvertis, pas à des gens qui sont de tout cœur. Hein? Mais par exemple, la dame qui s'occupe de moi... ouais. Je lui ai parlé, je faisais attention à moi. Ne pas lui dire des alléluia, des amen à tout bout de champ. Je ne lui en ai pas dit, mais je lui ai parlé de Jésus et j'ai prié même avec elle. Mais bon, c'est une dame qui n'est pas convertie. Hein? Alors, j'ai prié parce qu'elle a perdu, sa maman a disparu en Afrique. D'ailleurs, il faudra qu'on parle, qu'on prie. Ça fait 4 ans et ils sont catastrophés. Ils ont cherché partout, elle a disparu. Seigneur, tu ramènes cette mère au nom de Jésus. Là où elle est, tu la touches et qu'elle prenne contact avec sa famille au nom de Jésus. Donc, je lui ai dit ça, j'ai prié pour ça, pour sa maman. Alléluia. Et donc, il faut, c'est une petite aparté, mais il faut avoir un langage pour que les gens nous comprennent. Il faut qu'on fasse attention, parce que sinon, ils prennent peur. Hein. Mais en tous les cas, le Seigneur leur a dit, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai à vous dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vous le dirai plus tard, et vous, je vous le dirai au travers du Saint-Esprit. Le Seigneur ne se faisait pas de soucis en disant, bon, c'est eux les grands apôtres de l'Église. C'est sur eux que toute l'Église dans les siècles va être bâtie. Vous vous rendez compte sur leur doctrine? Mais je me fais pas de soucis, le Saint-Esprit vient, il va les conduire. C'était, hein? Alléluia, nous avons reçu le même Saint-Esprit, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents? Hein? On a reçu le même Saint-Esprit, alléluia. On a le même Saint-Esprit. Alléluia, donc on a besoin de s'attacher au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardez le verset 25, il dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, après la Pentecôte. » Amen. « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Alors voilà ce que cherchait, verset 25. « Je vous ai dit ces choses en parabole. » Voyez, ça illustre ce que je viens de vous dire. « L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. » mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Amen. Donc voyez, il leur parle encore leur langage, le Seigneur. Même là, il leur parle en parabole, il leur parle un langage qu'ils peuvent comprendre, parce qu'il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais ils ne sont pas encore spirituels. Mais c'est à devenir. C'est pourquoi il leur dit, eh bien, tout ce que j'ai à vous dire, vous ne pouvez pas le porter. Mais quand l'Esprit de Dieu sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité, eh bien, il va vous conduire, il va vous faire connaître ses plans, il va vous faire connaître qui vous êtes, il va vous donner abondamment cette gloire qui va vous connecter au ciel et qui vous va apprendre à marcher dans le surnaturel. Il va vous aider, vous allez avoir les dons du Saint-Esprit, vous allez marcher dans les dons du Saint-Esprit, vous allez demander à Dieu que ces dons œuvrent dans votre vie et vous allez aller dans des choses différentes parce que c'est ainsi qu'un chrétien vit. Amen. Si un chrétien vit que du naturel et du naturel, on peut se demander si vraiment il y a le Saint-Esprit dans sa vie. Mais quand il y a le Saint-Esprit dans notre vie, il y a du surnaturel à condition que nous soyons connectés avec le Saint-Esprit. Amen, j'arrête là. À condition que nous soyons connectés avec le Saint-Esprit. Car si nous ne sommes pas connectés avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de surnaturel. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous travaillions dans les profondeurs. Nous aurions pu lire ce passage dans Romains 8 où il nous dit que l'Esprit sonde même toutes choses, les profondeurs de Dieu. Dieu sonde, alléluia. Et nous, il nous faut aller simplement en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas faire des efforts sur notre bizarre ou de la chair pour chercher Dieu. Mais nous devons, lorsque nous avons des temps de prière, écouter notre esprit. Amen. Être attentif. Nous devons, lorsque la chair est en train d'être trop vivante parce que nous avons investi tellement dans la chair toute la journée, devons parler en langue jusqu'à ce que notre chair se taise et que notre esprit se lève. Et à ce moment-là, nous devons apprendre à nous connecter avec l'Esprit de Dieu pour écouter aussi et pour recevoir de lui. Amen. Pour recevoir de lui. Alléluia. Alors on va simplement prier dans l'Esprit ce soir, afin que le Saint-Esprit nous visite. Alléluia. Oh, alléluia, qu'il nous parle, qu'il y ait les dons de l'Esprit de Dieu qui soient libérés au milieu de nous ce soir. Alléluia, présence de Dieu, alléluia, manifestation du Saint-Esprit. Alléluia, le cher Paraclétos qui est à mes côtés, à nos côtés. Alléluia, nous conduit dans toute la vérité. Alléluia, alléluia, oui, prions en langue. Alléluia, oh, le Saint-Esprit est là. Merci, Saint-Esprit. J'ai libéré un message qui nous rappelle combien c'est glorieux de vivre avec toi. Alléluia, combien, Seigneur, tu nous appelles. Tu nous appelles à reconnaître les temps et les saisons. Les temps et les saisons dans lesquels nous sommes, des temps particuliers, des saisons particulières. Nous devons les enfanter, les préparer. Nous devons nous attacher à toi et les enfanter avec toi, Saint-Esprit, car tu es à nos côtés. Tu fais pas l'œuvre sans nous. Ça t'intéresse pas, tu fais l'œuvre avec nous. Allez, tu es participant. Nous sommes participants à la nature divine. Nous sommes en train de participer à ton œuvre et à ton travail, mais nous sommes ensemble. Alléluia. Père, merci. Oh, Saint-Esprit, nous t'adorons ce soir. Nous te remercions, te laissons de la place ce soir. Fais ce qui t'est agréable au milieu de nous, Saint-Esprit. Parle au milieu de nous, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Libère, alléluia. Oh, libère, guéris, fortifie, alléluia. Parle à nos cœurs, Seigneur. Révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Alléluia. Ouvrons, Seigneur, les livres de notre vie. Regardons le livre de notre vie. Alléluia. Entrons pleinement dans notre destinée. Alléluia. Car nous sommes dans des temps de destinée, dans des temps prophétiques. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, alléluia, nous voulons avec le Saint-Esprit coopérer, être vraiment participants avec le Saint-Esprit à cause de ces temps. Alléluia. Oh, merci, Saint-Esprit. À toi la gloire ce soir. Alléluia. Shekema alma sordo maha shekema. Corre de malma sordo maha shema. Ima ordo malma sordo maha. Shema oso malma sordo maha. Che mal ma sordo do marrada mal ma sordo ma ima or